les enjeux internationaux.
Bonjour Thierry Garça, vous allez nous parler de la prochaine élection du président de l'Union africaine, une Union africaine si je ne m'abuse, qui a été créée en 2002 à Durban, en Afrique du Sud, en application de la déclaration de Sirt, qui elle date du 9 septembre 1999.
Je ne serais pas arrivé à un tel niveau de précision. En tout cas, merci, nous attendons notre invité, le temps quand même de parler de l'Union africaine. Vous savez, vous l'avez très bien dit qu'elle est née en 2002, mais elle succédait à l'OUA, l'Organisation de l'unité africaine qui avait été créée au début des années 60, c'est-à-dire au lendemain des indépendances. Et cette organisation de l'Union africaine, de l'unité, cette organisation de l'unité africaine, évidemment, était très velléitaire. On avait souvent dit, d'ailleurs, ce n'était pas très gentil, que c'était un club de dictateurs. Ce n'était pas tout à fait faux non plus.
Alors, c'est un club de dictateurs, mais qui avait des objectifs affichés, comme bien souvent d'ailleurs, hélas, les dictateurs, diamétralement opposés à la dictature, en apparence.
Et parfois, souvent, parfaitement opposés à la réalité des choses. Alors donc, la réorganisation de l'unité africaine a eu quand même un mérite, et un très grand mérite. C'est l'année suivante sa création, elle a édicté le fameux dogme de l'intangibilité des frontières issues de la colonisation. Alors comme vous le savez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise frontière, il n'y a pas de frontière juste ou injuste. Il se trouve que celle tracée par le colonisateur, essentiellement à la fin du 19e siècle, Congrès de Berlin notamment, ces frontières sont quand même relativement artificielle, mais quelle frontière n'est pas artificielle? Alors simplement le dogme de l'intangibilité, c'était pour ne pas ouvrir la boîte de Pandore, parce que si on redresse les frontières, on l'a vu d'ailleurs en Europe chez nous, nous n'avons aucune leçon à donner à nos amis africains, puisqu'avec la Yougoslavie et l'effondrement de la Yougoslavie, on a fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire en redessinant un certain nombre de frontières, à commencer par celle du Kosovo, qui n'est pas toujours membre de l'Assemblée Générale de l'ONU et qui dont le statut d'État est récusé par 5 pays de l'Union européenne. Vous voyez donc, la question des frontières est une notion tout à fait...
Donc ça, c'est
tout à
au fait moins ça, un but qui a été atteint.
C'était un but qui a été
atteint. Parce que pour
encore,
le reste...
Encore qu'il y ait eu des processus de décolonisation par la suite, la Namibie, les Zimbabwe au début des années 80, la Namibie au début des années 90, et puis on vient de créer un État africain... En 2011, c'est évidemment par partition négociée du Soudan. C'est le Soudan du Sud qui lui-même tout de suite était précipité dans une guerre civile. Alors l'organisation de l'unité africaine a eu quand même ce mérite entre autres, et lui a succédé effectivement l'Union africaine. Alors l'Union africaine, c'est un peu un pendant, Guillaume, par rapport à l'Union européenne. Même dans sa dénomination, il y avait une sorte de calque voulu. Je vous rappelle, ou je vous précise, et je l'ai vu ce matin en regardant Internet, que l'Union africaine, donc qui va élire un nouveau président au début du mois de juillet, vient de décider de la création d'un passeport africain. Il y a 54 pays, sauf erreur, un passeport africain, mais qui sera dans un premier temps délivré uniquement aux chefs d'État et aux grands dignitaires officiels. C'est déjà
une délivrance sélective.
Oui. Et alors, rien de plus urgent que de créer un passeport africain, comme il y a un passeport européen.
Effectivement. Mais alors, du coup, en fait, ce détail est effectivement assez édifiant par rapport au tableau qu'on peut dresser de l'Union africaine, parce que bien souvent, on considère que celle-ci a en grande partie échoué. Thierry Garcin, expliquez-nous pourquoi.
Oui, c'est le sentiment, ou plutôt c'est la perception dominante. Au début, il y avait cette idée du fameux NEPAD, c'est un sigle anglais, c'est-à-dire le partenariat économique pour le développement de l'Afrique. C'était donc au début des années 2000, sous l'égide notamment de l'Union africaine. Et c'était très intéressant parce qu'il s'agissait de créer des infrastructures et d'organiser une sorte de maillage dans un certain nombre de zones clés, de régions clés du continent. Alors les mauvaises langues avaient dit, mais pourquoi créer des infrastructures pour transporter quoi? Et effectivement, parce que il y a deux fléaux, en tout cas deux réalités tout à fait négatives pour l'économie africaine, c'est qu'il n'y a pas d'échanges ou très peu d'échanges intra-africains, et que, sauf erreur, là aussi, les échanges intra-africains représentent à peu près un peu moins de 3% du commerce extérieur du continent, c'est-à-dire rien. L'Afrique commerce avec les autres, elle ne commerce pas avec elle-même. Et puis d'autre part, l'autre fléau, c'était le fait évidemment que, à part quelques pays, il y a très peu de processus d'industrialisation. Alors créer des infrastructures sans industrialisation, évidemment, c'est un pari très très risqué.
Alors donc ça, c'est sur le plan économique, sur le plan géostratégique, sur le plan en quelque sorte du maintien de la paix, puisque si l'Europe a eu au moins un point positif, c'est celle d'avoir maintenu la paix. Or, hélas, sur le continent africain, ça n'a pas été la même chose. Et donc là, l'Union africaine est apparue très affaiblie.
Elle a été apparue très affaiblie. D'abord, pour rénover son siège qui se trouve à Addis Abeba en Éthiopie, où se tiendra le prochain sommet de l'Union africaine, donc en juillet pour l'élection du président, ou de la présidente, qui succédera à l'actuelle Madame Zuma, qui est sud-africaine. Le siège a été financé par le colonel Kadhafi.
Oui.
Alors, ce qui était
évidemment... C'est suite aux accords de Sirte de 99, peut-être.
C'est exact, mais vous êtes imbattable, Guillaume. Et donc, évidemment, ça faisait un petit peu désordre dans le paysage. Et cela dit, alors, l'Union africaine a eu le mérite de recevoir des délégations des Nations Unies pour essayer d'entreprendre des opérations de maintien de la paix sous l'égide, encore une fois, des Nations Unies. Opérations de maintien de la paix dans des zones clés, parce que ce qui s'est passé depuis une vingtaine d'années, sinon plus, c'est la multiplication des guerres civiles et des conflits intestins en Afrique. C'est vrai qu'il y a en Afrique peu de guerres internationales, interétatiques, sauf évidemment Éthiopie, Érythrée. Mais en revanche, il y a beaucoup de conflits intestins. On pense aux terribles guerres civiles du Libéria, de Sierra Leone, et à des désordres absolument
dernièrement
chroniques.
Le Burundi, etc. Qui a montré encore une fois de plus la faiblesse de l'Union africaine.
Absolument, vous avez tout à fait raison. Alors quand même, l'Union africaine donc intervient à titre de délégation, et elle délègue elle-même à des sous-régions la possibilité de faire intervenir ce qu'on appellerait des casques bleus. Alors il y a souvent des dérapages, il y a eu des dérapages tout à fait regrettables il y a une quinzaine d'années de la part du Nigeria. Personne ne lui avait demandé de bombarder d'une façon aérienne la capitale Freetown de Sierra Leone. Et donc il y a du bon et du mauvais dans cette utilisation par l'Union africaine de ces casques bleus, mais c'est mieux que rien. Alors l'héritage très momentané de l'Union africaine est un héritage, on va dire, pour employer une expression familière, globalement négatif, mais encore une fois, il y a, sauf erreur, 54 pays qui se réunissent et qui sont souvent dans l'incapacité de s'accorder. On ne fait pas souvent mieux en Europe, d'ailleurs.
On peut peut-être dire quand même, pour défendre l'Union africaine, qui a un budget très mince, c'est un budget aujourd'hui de 410 millions de dollars, ce qui n'est pas grand-chose, le tiers est consacré au fonctionnement. Et par conséquent, avec si peu d'argent, eh bien, au moins l'Union africaine peut légitimement déplorer le manque de moyens et l'incapacité qu'elle a d'agir, comme le fait l'Union européenne, Thierry Garcin.
Vous avez tout à fait raison. Elle a un certain nombre d'institutions qui pourraient lui permettre d'agir. Alors, il y a la présidence, bien sûr. Il y a le Conseil de paix et de sécurité. Il y a même un Parlement. Et quand vous regardez la liste sur le site de l'Union africaine de tous les comités divers, on est frappé par le calque, au fond, qui est appliqué. Calque en provenance des Nations Unies, en provenance des institutions internationales, en provenance aussi, ça c'est très clair, du schéma organisationnel de l'Union européenne. Et on voit qu'elle peut peu, mais encore une fois, on ne peut pas lui jeter la pierre dans la mesure où elle est dépassée par l'ampleur de la tâche et elle est dépassée par ses ambitions, puisque le terme même d'Union africaine, comme le terme précédent de l'organisation de l'unité africaine, c'est un défi qu'elle se pose à elle-même, parce qu'évidemment, il n'y a ni unité africaine, ni union africaine.
Il y avait une dernière question, il y avait comme objectif la création d'une banque centrale de développement pour l'Union africaine. Une perspective envisageable aujourd'hui.
Tout ce qui concerne le développement est évidemment prioritaire et c'est absolument essentiel que les États, en tout cas, s'engagent dans des processus de développement en accord avec les grandes institutions internationales. Mais encore une fois, le faire tous ensemble paraît quelque chose d'un petit peu irénique, utopique et sans doute artificiel. Encore une fois, ne jetons pas la pierre à cette dame, on va dire, fatiguée de l'Union. Enfin, elle a à peine 15 ans.
Elle est jeune, mais elle est fatiguée quand même. Demain, Thierry Garcin, parce que nous ne sommes pas fatigués, de quoi parlerons-nous ?
Avec le directeur du bureau de représentation de Taipei à Paris, nous parlerons justement de Taïwan à la suite de l'élection de la nouvelle présidente.
Merci, à demain Thierry. Tout de suite, le sommaire par Anne de Biran. Bonjour Anne.